Avant de reprendre sur cette deuxième partie qui s'intitule Entre Descartes et Saint Augustin, je vais juste prendre une question puisque voilà, donc Jean-Paul, je te laisse poser ta question.
Oui. J'aurais évidemment beaucoup de questions à poser, mais comme Fabrice donne des règles et qu'il les transgresse toujours, alors je vais me contenter d'une question. Finalement, si j'ai bien compris, l'entrée en philosophie, c'est par le texte, par le maître, par l'événement. Alors, ma question, ça concerne le pré-philosophique. Levinas, dans ses cours à Fribourg, il disait souvent le philosophique s'origine dans du pré-philosophique. Alors ma question, elle va être directe, c'est quoi la place de la catholicité dans votre pré-philosophique?
Alors, quand Levinas disait le pré-philosophique, je pense que c'était sa façon de reprendre la distinction qui était commune en France dans les années 50 entre le prédicatif et l'antéprédicatif. Donc l'antéphilosophie, c'était l'antéprédicatif au sens de Husserl dans Expérience et jugement, par exemple, ou chez Merleau-Ponty, etc. Donc en ce sens, à mon avis, la formule le pré-philosophique est un peu pas appropriée. Il n'y a pas de pré-philosophique, si on veut dire par là qu'il n'y a pas de moment où il n'y ait pas une expérience telle que la réflexion sur cette expérience soit décisive. Je pense qu'il n'y a pas de pré-philosophique. Il y a de l'anté-prédicatif, ça, évidemment. Mais pas de pré... Donc, dès le début, il y a du sens. Il y a une organisation du sens. Alors, il peut être fait, je vais dire, involontairement, inconsciemment. Il y a toujours du pré-donné, enfin du donné. Le donné, c'est toujours du pré-donné, par définition. Alors, dans mon cas, c'était le fait de la famille catholique, mais comment dire, moi j'ai presque honte de le dire, mais je suis né catholique. L'idée de pouvoir douter à un seul moment d'une ligne du credo ne m'a jamais effleuré. J'arrive même pas à comprendre comment on peut ne pas être d'accord. Enfin bon, et moi je veux dire, c'est peut-être une fatalité, mais j'ai beaucoup de mal à perdre la foi. Je suis un peu confus. Je sais que c'est pas très poli, pas très bien élevé, mais c'est comme ça. Ça n'a jamais été, ça a toujours été une donnée. Un donné, autant dans tous les sens du terme, mais j'en ai jamais, qui n'a jamais été remis en question. Ce qui ne veut pas dire que je comprenais ce que ça voulait dire. Attention. Accepter le point de départ chrétien ne veut pas dire qu'on sait ce que ça veut dire. On sait que si on était à la hauteur, on comprendrait un peu plus ce que ça veut dire. Et donc peut-être que j'ai passé toute ma vie à essayer de rattraper une partie du retard. Mais je ne peux pas en dire plus.
En tout cas, on a encore une autre figure de l'incompréhensible. On avait dit aller vers des livres incompréhensibles, se tourner vers un maître bon, qu'on ne comprend pas aussi. L'événement qui vient nous frapper comme un excès par rapport à ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait... Et là, ce donner premier qu'on ne comprend pas, mais qui nous comprend.
Oui, et puis un donné, on peut le ratifier ou pas. Hein. Dans mon cas, l'idée de ne pas le ratifier ne m'a jamais effleuré. Alors, plus on vérifie, plus on ratifie sur tel ou tel point, plus on pense que les points sur lesquels on n'est pas capable d'en dire beaucoup, ça doit être juste aussi. Enfin, il y a une...
Alors, on aborde cette deuxième partie. Sur ce qui relève de votre travail, c'est toujours un travail de lecteur, de relecteur, un travail religieux aussi dans ce sens-là, de la relecture. Très vite, vous vous êtes imposé, pour ainsi dire, en tout cas aux yeux des autres, sans vouloir vous imposer, mais d'abord comme un lecteur, commentateur, relançant en fait les études sur Descartes. Et la question c'est d'abord pourquoi Descartes?
Alors on va dire par hasard, parce que j'avais découvert, contrairement à ce que Beaufray disait, qu'il laissait supposer que tous les professeurs à la Sorbonne étaient des imbéciles et des ignorants, j'avais découvert par hasard qu'il y en avait un qui n'était pas imbécile et pas totalement ignorant, c'était Alquier, et qui est donc enseigné Descartes et les 17e siècle. Ensuite, parce que en France, vous savez, en Allemagne, si on veut apprendre l'histoire de la philosophie du point de vue allemand, on fait un livre sur Kant. Chez les Anglais, c'est Hume, et en France, c'est Descartes, c'est comme ça. Et aussi le fait que, j'ai découvert ça plus tard, en fait, l'état de la philosophie en France se lie, le diagnostic se pose en considérant l'interprétation dominante de Descartes. Il correspond toujours. Donc Descartes est un point central, sensible. C'est de l'uranium enrichi qui peut faire une bombe atomique. Donc, Malebranche, je n'ai jamais excité personne, sauf ceux qui croyaient que c'était un philosophe chrétien. Mais évidemment, il est tout. Il est tout sauf ça.
C'est aussi un conflit que vous avez avec Jean-Louis Chrétien. Jean-Louis Chrétien, lui estime beaucoup Malebranche.
Mais moi, j'estime aussi. Mais je ne pense pas que ce soit un penseur chrétien. Je veux dire, ce qu'il a trouvé de l'intelligent, n'est pas spécifiquement chrétien. Et malheureusement, quelquefois, il réinterprète le dogme catholique pour le faire coïncider avec ce qu'il a trouvé. Et c'est parfois monstrueux. Sa théorie de la grâce est une aberration. Bon, quand il parle du sensible, c'est très bien. Quand il parle de l'imagination, c'est très bien. Là, comme philosophe, il est bien, mais pas philosophe chrétien par excellence. Donc, et le problème de Descartes, c'est qu'il reste toujours très mystérieux. On ne sait pas exactement ce qu'il a voulu faire. Ses successeurs ont travaillé à l'intérieur du champ qu'il a défini, ont repris des questions qu'il avait posées pour donner d'autres réponses, etc. Mais ils n'ont pas remis en cause l'espace cartésien. Le premier qui a repris au sérieux les questions de Descartes, je ne parle pas de discuter les réponses de Descartes, les questions de Descartes, c'est Kant. Et alors moi, j'ai eu une idée juste, pour ainsi dire géniale, c'est-à-dire... J'ai pris le texte que personne n'avait compris.
C'est une parole d'humilité quand on dit « j'ai eu une idée géniale ». C'est-à-dire ça lui est advenu,
oui, c'est juste.
Et il a été saisi. Et le pauvre, il a dû se faire l'esclave de cette idée. C'est ça le génie.
Oui, c'est vrai. Il y avait un texte que personne n'avait commenté correctement. C'était « Les règles pour la direction de l'esprit ». Très mal traduit, pas commenté. Et pourquoi ? Parce que personne ne voyait ce dont il s'agissait. Descartes y employait des concepts qui avaient nulle part ailleurs, Alors moi, je venais de lire beaucoup d'Aristote et je me suis dit, mais évidemment, tout ce qu'on peut repérer de clair, c'est des critiques de l'organon d'Aristote. Première règle, l'unité des sciences. C'est un principe chez Aristote qu'il n'y a pas d'unité des sciences, il y a une science par genre. Donc critique du genre. Après ça, le fait que la science doit toujours être certaine. Contraire d'Aristote, puisque la science sublunaire du monde réel, physique dans lequel nous sommes, est une science incertaine. C'est une science du probable, de l'accident plus ou moins régulier, etc. Donc ça, c'est une critique d'Aristote. Troisième règle, la connaissance se fait toujours par intuitus. Monstrueux pour Aristote. Il n'y a d'intuitus de nous que des principes pour Aristote, ou des simples, du sensible ou des principes abstraits. Mais la connaissance se fait par abstraction, pas du tout par abstraction et déduction, pas du tout par intuition. Donc, critique de ça. Puis après, Descartes commence à critiquer les catégories en disant qu'on ne connaît pas Lucia. Alors que chez Aristote, on connaît d'abord Lucia. C'est Lucia qui vous connaît. Donc après, critique des catégories, etc. Donc, là, j'avais trouvé le fil. Tout s'explique, y compris les problèmes étranges qui se posent, le vocabulaire curieux qu'il utilise, tout s'explique par une passage en revue de toutes les thèses de la théorie de la science chez Aristote. Il dit, et il inverse, surpasse. J'ai fait ça, vous tirez sur le fil, tout arrive. Alors évidemment, ça supposait qu'on ait lu Aristote. Or, un historien de la philosophie classique en France au XIXe siècle, s'il est spécialiste de Descartes, il connaît Aristote comme ça. Donc il fallait avoir lu Aristote en grec et lire ce texte en latin que personne ne lisait. À ce moment-là, si vous faites le travail, vous avez un petit bouquin, mais qui est la porte d'entrée indiscutable. Il y a tellement de rapprochements que ça ne peut pas être le fait du hasard. Ou si c'est le fait du hasard, c'est qu'il était génial, il pouvait citer Aristote sans l'avoir lu. Mais évidemment, il l'avait lu. Bon. Et les thèses, on lui avait expliqué ça au lycée, enfin au collège de la Flèche, où les jésuites lui avaient raconté Aristote, c'est obligatoire. Donc il connaissait ça par cœur. Deuxième exemple, après il fallait faire une thèse d'État. Quand j'étais l'assistant d'Alquier, il a fallu que je fasse ma thèse d'État, puis j'avais envie quand même de me mettre à mon compte. Et je suis parti d'une question qu'Alquier avait lui-même posée. Et il y a une étrange thèse chez Descartes, qui est la thèse sur la création des vérités éternelles. Donc Descartes dit que les vérités logiques, principe d'identité, toutes les règles de logique formelle, aristotélicienne, qui est celle qu'on connaissait à l'époque, et les vérités mathématiques sont des vérités éternelles, si on veut, mais elles ont été créées en même temps que l'esprit humain et en même temps que le temps. Donc elles sont des vérités éternelles, mais des vérités non absolues. Elles sont des vérités pour nous. Ce sont les règles du jeu d'un entendement fini. Ce ne sont pas des règles absolues. Elles ne s'imposent donc pas à Dieu. Thèse qui prenait le contre-pied absolu de tous les contemporains de Descartes. Après Descartes, tous ceux qui étaient les grands successeurs de Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, ont tous critiqué cette thèse en disant que le père Descartes délirait. Et que la raison est la même pour Dieu et pour nous. Et Descartes s'oppose à tous ses immédiats prédécesseurs, parce que Kepler, le père Mersenne, son ami, Galilée, avaient un dogme. Le problème, comme vous le savez, c'était d'appliquer, comme on dit, les mathématiques à l'étude du monde physique, matériel, réel. Ce qui était impossible pour les Grecs, puisque les mathématiques supposent l'abstraction de la matière. Or, la physique, c'est justement la science où on considère les choses dans leur matérialité. Donc, on ne peut pas utiliser un raisonnement mathématique, ça ne colle pas avec les éléments physiques. Bien. Alors, comment peut-on dépasser cet interdit épistémologique aristotélicien ? La thèse était qu'on pouvait prouver que Dieu avait créé le monde selon des modèles mathématiques. Alors, celui qui avait établi ça le premier, c'est Kepler, qui avait essayé de ramener les mouvements, y compris les mouvements non circulaires mais elliptiques, des planètes, à des figures mathématiques.
Des polyèdres.
Des polyèdres réguliers, puis alors les ovales, etc. Et puis ensuite, Galilée avait repris cette thèse. Et toute la physique disait, puisque nous avons des cas où Dieu, ou la nature, obéit à des lois mathématiques, on peut supposer que c'est vrai en général et que Dieu a pensé la création selon des règles mathématiques. D'où la formule de Leibniz, lorsque Dieu calcule, advient le monde. Dum Deus calculat fit mundus. Cette idée que le monde a été, dans la sagesse divine, créé mathématiquement. Alors, il y a un fragment, un verset du livre de la sagesse où on dit que Dieu a créé toute chose, numéro Mansura et Pondéré. Et ils interprétaient en essence mathématique. Alors, très clairement, la thèse de Descartes, alors ça comme j'avais... La thèse de Descartes est étrange, tout le monde le savait. Pourquoi ? Bon, moi j'avais quand même vu le rapport à Kepler. Donc, la thèse de Descartes était une thèse disant que les vérités mathématiques sont instituées de Dieu, comme il disait, non pas, la rationalité, est créée comme l'esprit humain, et ne s'applique pas à Dieu. Ce qui ne veut pas dire que Dieu est irrationnel, ça veut dire que la rationalité de Dieu est autre que la nôtre. Alors je me suis posé la question, d'où ça vient ça ? Et est-ce que c'est Est-ce que les médiévaux connaissaient ce problème? Alors, il y avait une indication. C'est que dans les trois lettres où Descartes critique l'agrégation des vérités éternelles, il y a un moment, il passe du français au latin. Et on avait repéré que, une personne, Madame Rodicevus, avait repéré que ces phrases en latin étaient peut-être des citations du grand jésuite Suarez. Suarez qui fait les disputations métaphysiques qui paraissent un an après la naissance de Descartes et qui deviennent le grand texte philosophique de tout le XVIIe siècle, y compris chez les protestants. Alors je suis allé voir Suarez. Ça, c'est ce que les gens ne faisaient pas. Et il y avait un seul type à l'époque qui lisait Suarez, c'était le père Breton, à l'Institut catholique. Donc, je suis allé voir Suarez. Et dans Suarez, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé que les vérités mathématiques et les vérités logiques s'imposaient à l'entendement divin, qu'elles étaient divines, etc. C'est-à-dire que les théologiens aussi disaient ça. C'est-à-dire que les théologiens avaient admis que Dieu était soumis aux règles qui gouvernent l'entendement humain. Et Suarez faisait ça en toute connaissance de cause, reprenant des arguments d'Ascot, de Cachetan, à savoir que il y avait une univocité épistémologique, comme je disais, c'est-à-dire que tous les entendements obéissent aux mêmes règles qui sont les règles de la métaphysique. Ils employaient le mot métaphysique, disputation métaphysique. Alors d'un seul coup, les choses s'éclairaient. Il y a un moment où on a pensé que la rationalité était univoque entre Dieu et l'homme. Alors, à ce moment-là, vous posez une question immédiatement. Cette univocité-là, comment est-ce qu'elle peut fonctionner avec l'analogie? L'analogie de l'étang, la grande doctrine médiévale. Alors, je me suis demandé si quel rapport il y avait entre l'univocité de la connaissance et l'analogie de l'étang. Naïf que j'étais, parce que je croyais que l'analogie de l'étang, c'était chez saint Thomas. Or, chez saint Thomas, il y a l'analogie des noms divins, mais il ne dit jamais l'analogie de l'étang. C'est après saint Thomas qu'on met en place l'analogie de l'étang. Alors, je ne dis pas que c'est contradictoire avec ce que dit saint Thomas. Enfin, je me suis aperçu que la question était beaucoup plus compliquée que je ne croyais. Puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait deux modèles de l'analogie chez saint Thomas, pas un seul. J'ai lu le livre du père Bernard Montagne qui vient de mourir, qui est un livre admirable sur l'analogie, je me permets de vous le conseiller. Et donc, travaillant Bernard Montagne, OP. Et donc, je découvre la complexité du problème de l'analogie. Je vous passe les détails qui furent très longs pour faire un très gros livre. Et le résultat, c'est que Descartes répondait à sa façon à une question médiévale, c'est-à-dire est-ce que Dieu est comme nous sommes, avec quelle analogie? Est-ce que Dieu pense comme nous pensons, avec quelle analogie? Alors Descartes disait, radicalement équivociste, Dieu ne pense pas comme nous. Alors au même moment, j'étudiais la théologie négative et Denis l'Areopagite, parce que je voulais en savoir plus sur la mort de Dieu. Parce que la mort de Dieu...
On va en parler cet après-midi.
Hein. Oui, mais bon, la mort de Dieu donc suppose une certaine possibilité, un rapport de Dieu à la négation. Donc je disais ça. Donc d'un seul coup, je me suis dit, Descartes, il introduit en métaphysique une forme de théologie négative. Dieu ne pense pas comme nous. Et c'est ce qui fait son originalité absolue, puisque ses prédécesseurs et ses successeurs, tous très bons mathématiciens, très bons chrétiens, avec de la théologie, etc., pensaient le contraire. Donc, je me suis dit, Descartes est un type absolument exceptionnel, c'est une exception. Par ailleurs, il est génial. Donc, je travaillais ainsi. Lectio difficilior, je partais d'un texte, d'abord pour la première, dans le livre qui s'appelait L'ontologie grise, je partais d'un texte que peu de gens lisaient. Et après, pour la théologie blanche, je partais de trois lettres qui ne collent pas, parce que Descartes, il ne cite jamais cette doctrine dans le reste de son œuvre, jamais directement, qui ne collent pas avec l'interprétation habituelle de sa métaphysique. Lectio difficilior. Et puis après, vous suivez des fils, c'est-à-dire vous faites des rapprochements pour un contraste ou des continuités, et c'est ça qui permet de comprendre. Alors la leçon, c'est que on ne peut jamais étudier un auteur seul. De la même manière que c'est très difficile de dire le goût d'un vin si on ne le compare pas à un autre, et le goût d'un alcool si on ne compare pas à un autre, c'est la règle de Kant. Hein. Nous ne pouvons jamais décrire un phénomène seul. Nous pouvons le décrire que par comparaison avec un autre phénomène. Et bien, en philosophie, un philosophe ne prend son sens que comparé à un autre. Pourquoi les gens qui sont ultra spécialisés ne peuvent rien trouver? Et d'ailleurs, ils ne trouvent rien. C'est les gens qui peuvent faire une comparaison, la bonne si possible, qui trouvent quelque chose. Si vous voulez savoir la hauteur d'un sommet ou la difficulté d'une voie en montagne, c'est par rapport à une autre que vous pouvez la déterminer. Bon, en philosophie, c'est pareil. Donc, lire Descartes dans un esprit cartésien, en disant « moi, je m'en tiens au texte », etc., comme ont fait certains de mes collègues, ça vous rend idiot. Parce que, bien entendu, Descartes, lui, il pensait à Aristote, il pensait à saint Thomas, à Galilée ou à Suarez. Il ne pensait pas à Descartes. Il pensait à la chose même et il voyait les solutions des autres. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça que Aristote avait lu Kant. Kant, bien entendu, il passe son temps à penser contre, mais avec Aristote ou Descartes. Parce qu'il a, il a les mêmes questions en vue. Donc quand il monte son 8000, il pense aux autres qui ont essayé de monter le même 8000, la voie qu'ils ont prise, alors lui il pense qu'il faut en prendre une autre, etc. Donc la comparaison avec l'alpinisme est bonne. Comme a expliqué Vincent Carreau.
Très bien, beaucoup place. D'alpinisme. Mais alors, justement, comparaison. Vous êtes philosophe catholique, vous vous emparez, vous vous laissez saisir par Descartes, alors que le philosophe catholique, c'est plutôt un thomiste, voire un néo-thomiste, pour être méchant, pour qui Descartes est précisément
le méchant,
la tête de Turc, celui qui s'est trompé sur tout. Alors Dieu, au-delà du principe de contradiction, donc on est dans une équivocité totale, voire même d'ailleurs l'expression qu'emploie Descartes pour mieux marquer cette équivocité, puisqu'il emploie pour désigner Dieu une contradiction absolue dans les termes, causa sui, comment est-ce qu'on peut être cause de soi, il faudrait qu'on soit déjà pour pouvoir se causer soi-même, enfin bon, ça n'a aucun sens. Donc on entre dans quelque chose de complètement irrationnel, voire même on fait le lit de l'agnosticisme. Puis Descartes qui refuse une épistémologie qui partirait de l'évidence sensible dans la grande tradition aristotélicienne et thomiste. Puis Descartes, le dualiste, bien sûr, la chose étendue et la chose pensante. Et donc le philosophe catholique, avant vous, Jacques Maritain, ne cesse de taper sur Descartes, trois réformateurs, le songe de Descartes, et à sa suite, de nombreux thomistes pensent que Descartes, c'est l'ennemi à abattre, et quand on fait de la comparaison, même à l'Institut Philanthropos, c'est pour dire, voilà ce qu'il ne faut pas penser, voici Descartes.
Mais il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. Hein. Il y a le destin de l'interprétation de Descartes. Si vous voulez, au XVIIe siècle, ce qui est tout à fait étrange, c'est que Descartes est de loin le plus catholique de tous les philosophes aux yeux de gens aussi divers que Arnauld, les jansénistes, en un sens les plus intelligents des jésuites, Bérulle, Pascal. Beaucoup de gens ont dit voilà une philosophie catholique, il reprend les thèses de saint Augustin, il nous délivre de beaucoup de paganisme implicite dans la scolastique.
Bossuet écrit un petit livre de philosophie entièrement inspiré par Descartes.
Absolument.
Il oublie son Thomas d'Aquin.
Absolument. Bossuet, Fénelon, c'est très impressionnant. Alors après, il y a des débats sur la grâce, les jésuites s'opposent aux jansénistes, les jansénistes sont trop cartésiens, donc Descartes va être, pour des raisons obscures, condamné vaguement à cause de l'évêque de Liège, enfin je vous passe des histoires. Bon, alors il y a toute une histoire dans l'interprétation. Après, Descartes va être brandi par les penseurs du XVIIe siècle, qui en même temps disent la méthode de Descartes est admirable, le discours de D'Alembert, mais toute sa métaphysique ne vaut rien du tout. Donc ils vont être anti-cartésiens, les Lumières. Descartes est repris au sérieux, mais pour être critiqué par Kant, par Hegel, par les philosophes allemands, alors il ne redevient le grand penseur qu'avec la Troisième République. Il faut un penseur national. Donc à ce moment-là, il va devenir radical socialiste. Et alors, le néo-thomisme, qui en fait se constitue en même temps que la Troisième République, puisqu'Eterni Patris, c'est 77, non, un truc comme ça, hein, c'est-à-dire au moment de la Troisième République, le néo-thomisme, mouvement néo-thomiste, va prêcher un retour à saint Thomas, qui est en fait, à Louvain par exemple, surtout un retour à Aristote. Et donc, évidemment, l'opposant, c'est Descartes. Comme Descartes est soutenu par les radicaux socialistes de la Troisième République, ça tombe bien, on est en guerre contre eux. Donc, Descartes devient le méchant. Et donc, la critique du subjectivisme de Descartes commence très tôt. Il est subjectiviste, il ne part pas de la sensation. Mais en même temps, la pensée chrétienne, elle est contre l'empirisme sceptique. Donc, je veux dire, donc, c'est très, ça ne veut rien dire. Mais évidemment, alors, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de penseurs catholiques se soient rués là-dedans comme dans une évidence, alors que c'était vraiment ne pas connaître l'histoire de l'interprétation de Descartes. Alors, Maritain n'a pas été le premier, hein, ça a commencé très tôt. Puis souvent, Descartes était confondu avec Malebranche, puis Malebranche confondu avec l'ontologisme, comme on disait, tout ça. Une suite d'approximations, c'est des débats idéologiques, on ne sait plus de quoi on cause, mais ça permet d'avoir des positions très fermes. Alors, sitôt qu'on se met à regarder dans le détail, c'est plus difficile d'avoir des positions fermes et simples. Pardon, subjectivisme de Descartes. Descartes n'a jamais employé le mot sujet. Détail qui a son importance, quand même. Il n'a jamais dit que l'ego était un sujet. Pour Descartes, subjectum, ça veut dire hypokémenon, comme chez Aristote, le substrat.
Il dit même res, donc oui. Même il dit même une chose, oui. Plutôt que le sujet.
Oui, pour le... oui res cogitans. Donc, il faut... Donc, d'autre part, deuxième point, je ne suis pas philosophe catholique, j'essaie d'être un philosophe et je suis catholique. Il n'y a pas de boucher catholique, il y a des bons bouchers, des mauvais bouchers. Il n'y a pas de coureur cycliste catholique, même si Gimondi était catholique et Bertali aussi. Il y a des bons coureurs cyclistes, et puis qui sont catholiques ou pas catholiques. La foi chrétienne n'a pas besoin d'une philosophie pour se formuler, s'expliciter et se présenter. La philosophie, c'est autre chose. Donc il faut distinguer pour ne pas unir trop vite. Donc, ce que j'essaie de faire. Donc, je me suis senti d'une liberté absolue vis-à-vis de Descartes. Si on veut critiquer Descartes, il faut le faire au bon niveau. Pascal, quand il critique Descartes, il sait de quoi il cause, parce qu'en philosophie, il est d'accord avec Descartes. Il critique Descartes à cause de l'hétérogénéité de la charité avec la connaissance rationnelle. Ça, respect. Ça, c'est sérieux. Là, on cause. Mais sinon, c'est pas sérieux. Moi, j'ai découvert... Il y a aussi... Vous voyez, ce que je découvrais au même moment, c'était Heidegger, bien sûr. Et Heidegger... il faut savoir quand on est d'accord et quand on n'est pas d'accord. Heidegger, dès le début, il était clair qu'il ne voulait pas être chrétien. Il était éduqué catholique et il avait décidé de rompre avec ça. Il fallait l'admettre, il ne fallait pas essayer de réconcilier l'irréconciliable, comme beaucoup de théologiens ont fait du vivant de Heidegger. Il voulait absolument, puisque Heidegger parlait de l'être, c'était donc une nouvelle opportunité de faire du thomisme, en plaçant Heidegger à la place d'Aristote. Insensé. Et en Allemagne, on a quand même fait ça à fond. Non, il était pas, il voulait pas que l'être soit Dieu, il avait bien raison. Bon. Mais, je veux dire, quelles que soient ses raisons, je veux dire, il y avait quelques... Bon, il faut toujours... savoir exactement être honnête vis-à-vis du philosophe, il ne faut pas essayer de récupérer. Donc Heidegger, il n'était pas chrétien, jamais pris pour un chrétien, même Dieu sans l'être, c'est contre Heidegger, c'est pas contre saint Thomas, c'est contre Heidegger, c'est contre l'idolâtrie de l'être qui soumet Dieu à l'être chez Heidegger. Bon, et puis il a été nazi, bon, ça ne me gêne pas, enfin si je puis dire ça me gêne qu'il ait été nazi, ça ne me gêne pas de l'admettre. c'est jamais. Il faut, comme disait Lévinas, c'est, le plus grand philosophe du XXe siècle a été nazi. C'est embêtant, mais c'est comme ça. À quoi je lui ajoutais, c'est ça la définition du nihilisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre la vérité théorique et la rectitude morale ou la justesse politique. Il n'y a plus de nihilisme, c'est quand il n'y a plus de conversion des transcendantaux. Les Lumières, la métaphysique triomphante, donc ce qui est ruiné par le nihilisme, ça consiste à dire que plus on connaît, plus on est sage, plus on est sage, plus on est bon, juste et amoureux du beau. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que plus on connaît, plus on produit, plus on produit, plus on produit des canons, et plus on est cultivé, plus on fait la guerre de 14. Donc, la guerre de 14 est la victoire du nihilisme, c'est-à-dire les nations les plus civilisées sont celles qui ont fait le plus gros désastre, puisque la guerre de 14 se termine, si on compte court, en 1944. Hein, bon. Si on compte court, c'est donc une guerre qui a duré 30 ans et qui a fait un nombre de morts. Là, on a changé d'échelle. Les guerres napoléoniennes, c'était déjà, ça se comptait en quelques millions de morts. Là, c'est en dizaines de millions de morts. Et si on ajoute à ça le communisme triomphant que Hitler a rendu triomphant, ça ajoute les morts du communisme, alors là, ça devient grandiose. Donc, il faut toujours... Donc, Descartes, ce n'est pas du tout une contre-indication. C'est une contre-indication si on pense qu'il n'y a pas de pensée chrétienne sans philosophie chrétienne. Ce qui est une confusion des genres. C'est très anti-aristotélicien. Hein. Il n'y a de science qu'à l'intérieur d'un genre. Moi, je suis anti-aristotélicien. Les philosophies chrétiennes, ce sont deux genres différents. Donc, s'il y a des sciences pour chaque genre, il y a plusieurs sciences. C'est pas la même. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours en conflit, c'est toujours séparé. Mais il ne faut pas essayer d'imaginer que la théologie chrétienne a besoin d'une philosophie chrétienne pour être chrétienne.
L'autre chose, c'est qu'il y a aussi une critique de Descartes qui ne vient pas du néotomisme, mais qui viendrait aussi de la critique de l'emprise technologique. Descartes serait, oui. Alors vous avez essayé de le corriger,
le maître
d'abord de la mathématisation du réel, non pas d'une mathésis, mais d'une mathématique du réel. Celui qui, dans la sixième partie du discours de la méthode, Heidegger l'a presque dit, projette la bombe atomique, enfin, c'est-à-dire qu'il s'agit de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Il serait donc responsable d'une part d'une réduction de la nature à de l'étendue, en vue d'une emprise, d'un contrôle sur cette nature. Donc la crise écologique aurait sa source dans Descartes.
En un sens, c'est vrai. Mais ce qui fait l'intérêt de Descartes, c'est que, alors que certains se sont rués exclusivement dans cette voie, c'est-à-dire essentiellement les penseurs du progrès technique et scientifique, Tolbach, la maîtrise, puis après tout le 19e siècle, c'est que Descartes, au même moment, est le penseur de l'incompréhensible, de l'idée d'infini, c'est-à-dire que maître et possesseur de la nature, c'est écrit à la page 57 du tome 6, c'est-à-dire dans le discours de la méthode, comme vous l'avez rappelé, et ça correspond à la doctrine de la science de Descartes, où l'ego, si je puis dire, constitue des objets sans s'inquiéter de son propre statut philosophique. Alors après, il y a le doute métaphysique, radical, qui pose la question de savoir si l'ego est, et donc les méditations. Donc dans les méditations, on va s'occuper de quelque chose qui n'avait pas été fait en 37 sérieusement, radicalement, bien qu'il y ait déjà une esquisse du cogito, qui est de savoir si je suis et au cas où je serai ce que je suis. Et à ce moment-là, intervient le rapport fini-infini. Le rapport fini-infini est impliqué par le fait que je doute. Je ne pourrais pas douter si je n'éprouvais pas l'infinitude. Mais la thèse fondamentale de Descartes, c'est qu'on ne peut éprouver l'infinitude que sur le fond de l'infini, qui est en fait la condition de possibilité de la finitude.
C'est alors, Dieu qui est la condition du doute hyperbolique.
Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il dira à la fin de la troisième méditation. L'idée de Dieu est connue avant l'idée de moi-même. Et dans le doute hyperbolique, dans l'argument du cogito, j'ai été le premier à le montrer, mais je pense que c'est absolument décisif, je me suis convaincu pleinement, Descartes ne dit pas « je pense, je suis ». Vous savez, la formule « je pense, donc je suis », elle est dans de nombreux ouvrages de Descartes, mais pas dans la deuxième méditation, qui est pourtant le texte de référence. C'est curieux. Il n'y a pas ça. Dans la deuxième méditation, Descartes dit « cette proposition « je suis, j'existe » est manifestement claire chaque fois que je la prononce ou que je la pense. » Alors, il ne dit donc pas « je pense donc je suis ». Il ne dit même pas « je pense je suis ». Il n'y a pas de conséquence logique. Il dit que sitôt que je pense, je suis. Et c'est pourquoi il ne dit pas « je pense donc je suis ». Il pense « je suis ». Et donc il ne dit pas « je pense ». Vous voyez, dire « je pense, je suis », c'est en fait dire deux fois « je pense ». Parce que en le disant, on le pense, donc on n'a pas besoin de mettre la proposition « je pense » dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit. Et est inutile. C'est pourquoi Descartes dit, dans la formule fondamentale, il dit « je suis, j'existe », cette proposition toujours vraie, chaque fois que je la prononce ou que je la pense. C'est déjà, ça prouve que c'est un performatif, comme on dit maintenant. C'est un énoncé qui est vrai parce qu'il fait ce qu'il dit. Mais cet énoncé lui-même est l'abréviation de plusieurs formulations qui sont antérieures. Vous verrez ça, c'est sur la page 25 du tome 7 de la Dictionnaire de l'Antennerie. Descartes commence par dire je suis. Alors, est-ce que je suis certain que je suis ? Peut-être que je me trompe, que je rêve que je suis. Alors, dit, ben oui, mais si je rêve que je suis, il faut bien que je sois. Oui, mais il y a peut-être un penseur, un malin génie, un Dieu tout-puissant, peu importe, qui me fait croire que je suis pour me tromper, alors qu'en fait, je ne suis pas. Et alors, il dit, oui, mais dans ce cas-là, s'il me trompe, même en me faisant croire que je suis alors que je ne suis pas, il faut bien que je sois, parce qu'autrement il pourrait tromper personne. Et alors c'est sur la base de cet argument qu'il simplifie en disant, mais d'ailleurs je n'ai même pas besoin d'imaginer quelqu'un d'autre qui me trompe, il suffit que je me pense que je suis, c'est un performatif, paf, je suis. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le vrai argument, c'est un argument dialogique, consiste à dire, la plus forte objection contre l'évidence que je suis, parce que je pense que j'ai, c'est que peut-être cette évidence est trompeuse, et que pour moi elle est évidente, mais peut-être que pour un esprit supérieur, elle est fausse. Mais cette hypothèse d'un esprit qui voudrait me tromper est une hypothèse dialogique. Il y a donc un autre qui n'est peut-être pas, qui pourrait faire que même quand je pense que je suis, je ne sois pas. Donc je suis. Parce que s'il veut me mettre KO, il faut que j'existe. Donc en fait, l'argument est un argument dialogique, intersubjectif. Alors les gens ne l'ont pas vu. Beaucoup de commentateurs n'ont pas pris ça au sérieux. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons. Premièrement, ils ont lu Descartes à partir de l'interprétation réflexive du cogito. Cette interprétation réflexive du cogito, c'est celle qui a été généralisée dès le XVIIe siècle, puis ensuite reprise au XIXe siècle pour la critiquer. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le cogito ? C'est la conscience de soi, c'est la réflexion sur soi. Ça, c'était leur interprétation, ce n'est pas celle de Descartes. L'interprétation de Descartes, c'est une interprétation qui est beaucoup plus proche de Saint-Augustin. C'est une interprétation dialogique dans laquelle c'est celui qui essaie de me convaincre que je ne suis pas, pour des motifs divers, qui présuppose que je suis. Donc Descartes, en fait, et d'ailleurs, à l'époque de Descartes, cet argument que je suis trompé par un génie, par un démon, par un mauvais dieu, etc., est répandu partout dans la littérature. Chez Rotrou, dans le théâtre, dans les comédies, chez Cervantes, chez pas partout, enfin, chez Ignace de Loyola, le génie qui vous trompe dans les exercices. Donc c'est partout. Donc Descartes reprend un thème, et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait l'argument prenait, parce que tout le monde comprenait ce que ça voulait dire, d'être trompé dans l'évidence la plus évidente. Dans ce cas-là, vous êtes quand même, si on vous trompe. Donc, si vous voulez, Descartes était beaucoup plus profond que ce qu'on en disait, à condition de le lire dans son contexte. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis posé la question de savoir si Descartes était augustinien. Car on a dit beaucoup, Descartes est augustinien. En un sens, c'est vrai. Mais Descartes, quand on lui mettait sous le nez des textes de Saint-Augustin avec des proches du Cogito, disait toujours « je ne les ai pas lus ». C'est pour ça que plus tard, quand j'ai travaillé sur Saint-Augustin, j'ai essayé de montrer qu'il n'y avait pas de Cogito augustinien. Parce que chez Descartes, le cogito prouve mon existence et définit ma nature. Tandis que chez Saint-Augustin, il prouve mon existence et définit l'incompréhensibilité de ma nature. C'est l'inverse. Alors, pour revenir à la question de Descartes et la technique, Descartes est bien entendu quelqu'un qui pense à la transformation technique du monde, comme Galilée, comme d'ailleurs tous ses contemporains. Mais ce qu'il a en propre, c'est que lui voit que ceci n'est qu'une détermination possible du cogito, que l'autre détermination possible, c'est que le cogito n'a de sens que fini et donc rapporté à l'infini. Donc il a une interprétation de la finitude, non pas à la moderne. La finitude moderne, c'est une finitude sans infini. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et même l'autorité de Heidegger ne suffira pas à me le faire admettre. Il n'est pas possible de faire l'expérience de la finitude sans présupposer l'infini. Et sans doute l'animal ne fait-il jamais l'expérience de sa finitude.
Il est même pas possible d'être un sceptique radical sans présupposer la vérité.
La possibilité de la vérité, comme une impossibilité. Mais enfin, je veux dire... Bon, donc, là, je pense qu'il y a les gens qui pensent que l'infini est une détermination fondamentale, vide peut-être, mais fondamentale et première. Descartes fait partie de cela. À partir de ce moment-là, vous ouvrez un autre champ, qui est le champ, c'est l'autre aspect de la modernité. C'est-à-dire la modernité, c'est aussi la question de l'infini. Est-ce que l'infini est notre lieu, ce dont nous sommes exilés, est-ce que l'infini va revenir dans notre histoire? Est-ce que notre histoire va absorber l'infini? Enfin, il y a toutes les hypothèses de la modernité. Descartes, c'est celui qui pense ça. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, Descartes pense aussi, par exemple, la possibilité de critiquer le monde de la technique. Car quand il s'agit de définir l'ego, ça ne relève plus de la mathématique universaliste. Sa morale est une morale absolument sapientielle, intuitive. Enfin, c'est une morale, quoi. C'est pas du tout une technicisation, comme nous faisons maintenant, par l'intermédiaire de la psychologie et de la physiologie, de nos états d'âme rapportés à nos synapses et à nos...
Mais justement, on pourrait même dire que l'ego métaphysique de Descartes, le second ego, c'est
la réponse.
Le lieu de résistance majeure au fantasme de l'intelligence artificielle, d'une objectivation complète.
Quand Descartes, parce que Descartes est quand même très fort, il dit que la res cogitans, l'ego, est finie. Et pourtant, l'un des modes de la res cogitans est un mode qui est infini, qui est la volonté. Donc la volonté porte la marque de l'infini. Et il utilise, cite plusieurs fois le verset de la Bible. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire qu'il est, il a une liberté formellement infinie. Donc ça, c'est quand même la pensée fondamentalement chrétienne. Et il cite le texte biblique, hein. C'est ce qu'il fait. Il le cite au moins trois fois explicitement. Donc, Descartes est un penseur qui va au-delà du cartésianisme vulgaire, bien au-delà. Et quand on le compare à ses successeurs, il est évidemment d'une ampleur beaucoup plus grande, parce que Malebranche, Spinoza ou Leibniz veulent absolument que la liberté ne soit pas infinie et que la liberté soit toujours rationalisable. Donc tous les choix peuvent être calculés. Et c'est pourquoi il faut soumettre, il y a un problème de savoir si nous sommes libres ou déterminés. Pour eux, nous sommes libres en tant que nous sommes déterminés. Pour Descartes, liberté d'indifférence est toute puissante. C'est-à-dire que le déterminisme qui s'applique à l'étendue ne s'applique pas à la liberté. Si vous lisez Malebranche, sa théorie de la grâce est déterministe, pour ça qu'elle est profondément hérétique, que malgré tout je suis en désaccord avec mon excellent ami Jean-Louis Chrétien, et Spinoza par exemple, Spinoza c'est le plus bête, il faut dire les choses comme elles sont, c'est d'ailleurs pour ça qu'il attire beaucoup de gens. Mais non, parce que Spinoza est bête. Il est bête, par exemple, il dit qu'on est d'autant plus libre qu'on est soumis au rapport de causalité, etc. etc. Bon. Et plus je suis plus je suis actif, c'est-à-dire que je m'assimile à une cause qui agit en moi, plus je suis libre. C'est exactement ce dont les gens rêvent. Nous voulons ne pas être libres. Heureusement, la science, comme ils disent, et les scientifiques nous montrent que nous ne sommes pas libres. Soulagement complet. Si vous voulez libérer l'humanité d'elle-même, dites-lui qu'elle n'est pas libre. Vous êtes entièrement déterminé, ce n'est pas de votre faute, les gars. Ce que disait Sade, d'ailleurs. Hein. Moi, je ne fais pas le mal, c'est la nature qui me pousse. Et Spinoza, il dit absolument ça. C'est pour ça que tous les marxistes en déshérence, tous les scientistes catastrophés, se font une philosophie portative et rêvée, fantasmée, en disant « je suis spinoziste ». Ce qui ne veut rien dire, gros avantage, car on s'y retrouve d'autant mieux. Et comme disait Bergson, toujours juste et toujours faux à la fois, tous les philosophes font deux philosophies, la leur propre et celle de Spinoza. Ce qui laisse supposer que celle de Spinoza n'est pas une vraie philosophie, puisqu'on peut l'avoir en double. C'est une philosophie de secours, c'est une bouée de sauvetage pour ceux dont la philosophie a déjà coulé. Donc Spinoza, par exemple, est justement celui qui ne comprend pas ce que dit Descartes. Alors il y a un qui le comprendra, hein. Littéralement, c'est Kant. Kant dit « nous sommes en tant que phénomène déterminé par la causalité, et nous sommes en tant que nous-mêmes absolument libres ». C'est du Kant, c'est du Descartes. Kant, il avait bien compris. Et en un sens, Nietzsche dira encore la même chose.
Est-ce qu'on peut parler du troisième Descartes? On a un Descartes, celui qu'on connaît le plus, qui est le deuxième, et qui commence par le doute. Et on a un troisième Descartes qui est celui des passions de l'âme, et qui commence par l'admiration. Qui commence justement par un Stimmung, une tendance à une polarité affective qui n'est pas du tout le doute. Et alors... Descartes, dont on a fait l'homme qui traverse le doute pour parvenir à une sorte de rationalisme absolu, ce qu'on appelle un esprit cartésien d'ailleurs aujourd'hui, est en réalité l'homme de l'admiration qui pense tout le temps le rapport à l'incompréhensible, mais qui aussi admet ce que vous appelez la raison passive, c'est-à-dire cette affection qui vient du dehors et tout le mouvement des passions, des...
Alors, il y a plus. Évidemment, c'était central ce que vous évoquez là. Quelques indications. On ne peut pas expliquer tout ça en détail tout de suite. Hein. Par exemple, Descartes dit que la première des passions, c'est l'admiration. Alors, c'est une passion bien particulière puisqu'elle est provoquée par un objet, comme il dit, en tant qu'il n'est pas connu et qui nous surprend. L'admiration, c'est notre manière d'éprouver ce que nous ne comprenons pas. Alors c'est pourquoi, dans bien des cas, l'admiration ne doit pas durer, parce qu'on va finir par comprendre de quoi il s'agit, et à ce moment-là, on saura que ce n'est pas un vrai fantôme, mais qu'il y a monsieur derrière, etc. C'est une illusion d'optique. Bon. Mais il y a des cas où l'admiration demeure. L'un des cas où l'admiration demeure, pour Descartes, il n'y en a guère que deux. Hein. Il y a Dieu et ma propre liberté. Donc ça reste admirable. Et oui, dans sa jeunesse, il avait dit cette phrase extraordinaire. Tria mirabilia fecit Deus. Dieu a fait trois choses admirables, étonnantes, dignes d'admiration. Homo Deus. Res ex nihilo et liberum arbitrium. Pas mal quand même. Donc l'admiration porte sur ce que nous ne pouvons pas comprendre et que nous ne pouvons néanmoins pas mettre disqualifié, qui s'impose à nous. Alors tous les successeurs de Descartes, avec une constance et une logique absolue, vont tous dire que l'admiration n'est pas la première des passions, ni la première des vertus. Grosse critique de l'admiration chez Spinoza, qui n'en rate pas une, en disant « Moi, je suis actif en tant que je comprends avec la cause, l'effet, tout le truc, etc. » Pas question d'admirer, moi, admirer, plutôt mourir.
Ni rire, ni pleurer.
Ni rire, ni pleurer, ni souffrir. Il se sent et s'expérimente immortel, lui. Comme ça, éternel et immortel. Bon, écoutez, c'est pas raisonnable, comme disait Alquier. Mon cher Marion, j'ai bien lu Spinoza, mais j'ai jamais réussi à m'éprouver comme immortel et éternel. Vous pouvez, vous ? Donc, c'est le premier point. La passion, la première passion, c'est l'admiration. C'est quand même fort. Alors, quand l'admiration porte, et ça, personne d'autre ne l'a dit que Descartes, quand l'admiration porte sur l'un des trois mirabilia, c'est-à-dire sur le libre arbitre, c'est la générosité. C'est-à-dire quand je suis bluffé, si je puis m'exprimer ainsi, par le bon usage que j'ai fait de mon propre libre arbitre. Quand on sent que vous avez fait quelque chose qui était au-delà de vos moyens. Nous en reparlerons. Expérience où vous êtes étonné vous-même, qui est une des expériences les plus libératoires qui puissent se produire. Quand vous cessez de vous haïr, de vous mépriser. Et donc vous n'avez plus besoin d'être méchant. Et donc, à ce moment-là, c'est la générosité. Et la générosité, qui vient de la première passion, et deuxième point, alors évidemment, c'est la forme suprême de l'ego cogito. C'est-à-dire que j'éprouve une passion qui est provoquée par l'exercice de mon ego. L'exercice moral, attention, pas intellectuel, moral de mon ego. Nous y viendrons. Mais alors, la chose la plus étonnante, c'est que cette première passion, la générosité, qui est la plus puissante, la plus libératrice, puisqu'elle me sort en quelque manière des déterminismes, Descartes dit que c'est aussi la première vertu. Alors, attention. Un philosophe qui dit que la première vertu, c'est aussi la première passion, c'est quand même rare. Tous les autres, même saint Thomas, tous les scolastiques, distinguent les vertus des passions. Les vertus ne sont pas des passions. Et puis après, un peu de néo-stoïcisme là-dessus, et tout le monde marchant au pas dit on a d'autant plus de vertus qu'on a moins de passions. Malebranche, Spinoza comme d'habitude, qui n'en rate pas une, et etc. Et Kant aussi. Quoique Kant a une doctrine de l'admiration devant la loi morale. C'est déjà quelque chose.
Bon. En même temps, les passions et les vertus ont les mêmes noms, souvent, hein, même chez les anciens.
Justement. Mais alors, pourquoi les avoir opposées? Et Descartes est celui qui dit, un, il est impossible de ne pas avoir de passion. Le problème est d'en avoir des bonnes et de s'en servir bien. Alors, celle qu'il faut avoir, c'est la générosité. Si vous pouvez essayer la générosité. Mais c'est la plus difficile à avoir. Alors ça, c'est capital. Là, on a quand même affaire à un type sérieux. Ce qui est facile, c'est de dire, c'est une position augustinienne, c'est-à-dire, en fait, la première vertu, c'est l'amour, qui est aussi la première passion. Les gens qui veulent régler leur amour par volonté, par décision, etc., s'illusionnent. Les stoïciens s'illusionnent. Donc Descartes, c'est quelqu'un de beaucoup plus complexe, mais il n'est pas bavard, il n'est pas très scolastique, il crée son propre vocabulaire, puis il dit toujours que pour comprendre ce qu'il dit, il faut vraiment y penser. Spinoza, il vous dit, n'y pensez pas, je démontre. Vous regardez la démonstration, ma démonstration est toujours impeccable, et donc l'énoncé qui résulte de la démonstration est totalement vrai. Vous ne comprenez pas pour comment ça marche, mais moi non plus, ça n'a pas d'importance, c'est vrai, c'est démontré. Et Malebranche, lui aussi, il a des principes dont il déduit, par exemple, que Dieu donne essentiellement sa grâce à ceux qui n'en veulent pas ou qui n'en ont pas besoin, il ne la donne pas à ceux qui la demandent et en ont besoin. Mais c'est très bien comme ça, parce que les règles générales de l'ordre le requièrent. Alors vous me direz, c'est absurde, mais on ne vous demande pas votre avis, c'est rationnel, c'est déduit, c'est comme ça. Bon, Descartes, il ne déduit jamais des choses comme ça.
Juste pour rentrer un peu plus avant dans cet autre Descartes, il y a un passage où il parle de l'amour pur, hein, Descartes aussi, la forme la plus pure de l'amour, et il dit que, et c'est dans cette page-là qu'il parle de la paternité. Descartes comme penseur de la paternité, Descartes comme affirmant que le plus pur amour, c'est l'amour du père pour ses enfants.
Alors, oui, il fait des hiérarchies dans les amours, parce qu'il pense qu'il y a une seule définition de l'amour, mais qu'il y a des degrés dans l'amour selon ce qu'on aime. Et en haut de la liste, il met l'amour d'un homme pour sa maîtresse, pour la femme qu'il aime, d'un père pour ses enfants, et d'un gentilhomme pour son prince, qui sont les trois cas, et pour l'amour pour Dieu, les trois cas où on peut sacrifier sa vie. Mais il y a des cas où il ne faut pas sacrifier sa vie. Parce qu'on ne va pas sacrifier sa vie pour son cheval ou pour son or. Donc il y a une hiérarchie. Alors, c'est curieux. Enfin, la paternité chez Descartes, ce n'est pas un thème central, mais...
En lien avec la générosité aussi.
Oui, bien sûr. Chez Descartes, c'est drôle parce que son père était furieux contre son fils. D'abord parce que son fils avait déçu les espoirs de la famille, il devait faire du droit et prendre la succession de son oncle à Poitiers. Il aurait été maire de Poitiers, c'est très bien pour l'annoblissement de la famille. Et Descartes a vendu l'héritage qui venait de sa mère, il a foutu le camp à Paris, il a fait le tour de l'Europe et il n'a pas été magistrat. Le père lui en voulait beaucoup. Et après, quand il a publié le discours de la méthode, il y a une lettre de son père où il dit que ses enfants lui donnent bien de la satisfaction, qu'il est bien content, sauf l'un qui s'est donné le ridicule de se faire relier en veau. Donc Descartes avait un père avec qui les rapports n'étaient pas faciles. Mais lui-même, quand il a été père, il a été très bien. Puisqu'il avait eu un enfant de la personne qui gardait sa maison, quoi. Hélène. Et il a eu Francine. Et quand Francine est morte, il écrit des choses qu'il était complètement dévasté, etc. Et il s'est rattrapé après, parce que Hélène a épousé un honnête garçon de l'endroit. Elle était hollandaise, donc, enfin des Provinces-Unies. Et on a retrouvé le contrat de mariage. Et Hélène est arrivée avec une dot monstrueuse. C'est évidemment Descartes qui l'avait dotée pour qu'elle puisse se marier correctement. Et donc Descartes avait le sens des choses. On a retrouvé le contrat de mariage d'Hélène, la servante au grand cœur.
Vous avez commencé avec Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, et vous avez en quelque sorte fini votre dernier cours à l'Institut catholique, porté sur Saint Augustin,
oui.
Et même sur la Cité de Dieu, si je ne m'abuse. Alors on pourrait dire, bon, bah, c'est autre chose, on est catholique, on lit Augustin, mais là il y avait vous avez mentionné un lien, c'est-à-dire Descartes augustinien, ligne qui passerait de l'un à l'autre.
Bah, c'était pas mon intention, mais l'histoire de Saint Augustin, bon, Saint Augustin c'est un auteur que j'ai lu commencé à lire très tôt, sans rien y comprendre naturellement. C'est pas un auteur, c'est un lieu dans lequel il faut se retrouver de temps en temps. Alors un jour, l'Institut catholique, on m'avait confié les conférences de la chaire Gilson, fait 6 conférences en deux semaines, et il s'attendait à ce que je raconte la donation, etc. Mais moi, ça commençait à me... et donc, je me suis dit qu'il serait peut-être intelligent de faire un essai de lecture où, au lieu d'utiliser, disons, les catégories de la métaphysique, comme a fait Gilson, pour lire Saint-Augustin, et pour sortir de l'interprétation positiviste, littéraliste, historiciste, érudite, mais très stérile, qui régit quand même les études augustiniennes qui sont faites avec un niveau de science et d'érudition admirable, que j'admire et que j'utilise, mais très fragmenté, sans vision générale, on ne sait plus de ce que pense Saint-Augustin, d'ailleurs on s'en moque peut-être. Donc, enfin bon, pour essayer d'atteindre un petit peu la puissance spéculative de Saint-Augustin, et si possible sa pertinence aujourd'hui, je me suis dit, je vais employer les moyens de la phénoménologie. Puisqu'après tout, Husserl le cite, Heidegger le cite, Scheler le cite, tout le monde le cite, même les phénoménologues, Derrida, etc. Tout le monde parle de Saint-Augustin en phénoménologie. Et je pourrais peut-être utiliser aussi mes propres concepts phénoménologiques pour voir si ça marche sur Saint-Augustin. Donc je fais ces conférences, ça marchait. Donc j'ai repris, sous forme d'un livre, plus détaillé, et en travaillant plus, une interprétation globale de Saint-Augustin, qui est à partir de Étant donné et du phénomène érotique, en fait. Donc, mon intention était d'abord de réveiller Saint-Augustin, de le rendre plus brillant, visible. Mais évidemment, là, j'ai rencontré un problème classique qui est celui du supposé cogito augustinien. Alors, cette expression a été introduite dans les années 50 par un monsieur qui s'appelait Blanchet sur le cogito augustinien, et régulièrement, il y a des gens qui reprennent la question de savoir s'il y a un cogito augustinien. Alors, il y a des textes de Saint-Augustin qui sont bien connus dans le Soliloque, dans le De Ordine, dans la Cité de Dieu, dans le De Trinitate, où Saint-Augustin dit que l'on ne peut pas penser sans penser que l'on vit et penser que l'on est. Et que c'est un argument contre le scepticisme. Alors, la question de savoir si ceci peut être mis sous le compte du cogito cartésien. Alors, dans le cadre d'un flou artistique sur ce que Descartes a vraiment dit et de Saint-Augustin a vraiment dit, on peut. Monsieur Blanchet l'a fait et beaucoup de gens l'ont repris puisque c'est Vraga qui a fait cette étude-là, tout le monde la citait. Et depuis, il y a encore des gens qui travaillent sur le cogito cartésien. Alors, c'est évidemment...
Augustinien.
C'est évidemment une entreprise très, sinon absurde, du moins très floue. Parce que d'abord, il faudrait savoir quel était le cogito cartésien. Si tout le monde pense que c'est la réflexion sur soi, la prise de la conscience de soi, etc., c'est-à-dire quelque chose qui n'apparaît qu'après Locke, pas chez Descartes, évidemment, il n'y a pas ça chez Saint-Augustin. Évidemment, si par contre on dit que c'est le cogito chez Descartes est le résultat d'une situation dialogique, alors là, peut-être que si. Et d'autre part, il faut aussi comprendre l'histoire du cogito, parce que entre Saint-Augustin, peut-être même ça vient déjà d'Aristote, évidemment tout le monde a compris que quand on pensait, d'une certaine manière, on était. Et Aristote l'a compris aussi. Mais il y a une histoire, et un des moments capitaux entre Saint-Augustin et Descartes, c'est Montaigne. Parce que Montaigne, lui, sait très bien ce que c'est que l'expérience de la pensée, et de la pensée de soi. Mais il n'en conclut pas à l'existence. Ou plutôt, il en conclut à une existence totalement changeante et fluide, dont on ne peut rien tirer de stable. Donc c'est une existence, si on veut, c'est une existence instantanée qui ne donne aucune identité, aucune stabilité, aucune existence et aucune identité, c'est-à-dire aucune essence. Donc Descartes, il est médiatisé de toute façon par la difficulté de Montaigne à faire un cogito stable. Donc c'est très délicat de savoir de quel cogito on parle. Alors, chez Saint-Augustin, il y a une particularité, c'est que mon existence n'est pas douteuse dans l'expérience de la pensée. Mais ce que mon existence peut me montrer, ça n'est pas mon essence. Parce que l'homme est incompréhensible parce qu'il est à l'image de Dieu qui est incompréhensible. Donc, ce que je vois dans le cogito, c'est l'image de Dieu. C'est pourquoi, au bout du compte, le cogito mène à une analogie de la Trinité. Et c'est dans le De Trinitate, la deuxième partie du De Trinitate. Qu'est-ce qu'on voit dans le cogito en fait d'essence ? C'est pas la mienne. C'est ce qui est plus intime à moi que moi-même et plus intérieur à moi que moi-même, pour reprendre l'expression de Confession 3. C'est le livre 3.
Plus grand que moi, supérieur.
Oui, qui est ce qui est plus grand, qui est supérieur à moi-même, qui est supérieur à ce qui est plus grand en moi et qui est plus intérieur à ce qu'il y a de plus intime en moi. Et Dieu, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, chez Saint-Augustin, vous avez les « je suis »,« ego sum »,« ipse ». Mais ce que je vois là-dedans, ça n'est pas mon essence, c'est le miroir de la Trinité. Directement. Alors remarquez, ce n'est pas si éloigné de Descartes qui dit que ce que je vois de mieux dans l'ego, c'est l'ego qui veut et qui est ainsi l'image infinie, l'image de l'infini, c'est-à-dire ad imaginem et similitudinem dei. Donc Descartes a retenu quelque chose de Saint-Augustin. Mais il dit très bien, mon cogito, ce n'est pas celui de Saint-Augustin, parce que moi j'y vois...
La mémoire, l'intelligence, l'amour.
Oui, oui, non, mais il dit, moi, Descartes, j'y vois l'ego, enfin, mon essence, etc. Tandis que Saint-Augustin, il voit l'image de la Trinité. Il dit donc, c'est pas pareil. Très juste, c'est absolument, c'est littéralement exact. Mais vous voyez, donc, il faut faire très attention. Le cogito, tout dépend de ce qu'on entend. Le cogito habituel n'est pas chez Descartes, et a fortiori n'est-il pas chez Saint-Augustin. Donc les gens qui parlent du cogito augustinien ne savent pas vraiment de quoi ils causent. Mais ça arrive. Hein.
On va justement passer à un temps de questions. Alors, Jacques.
Oui, donc enfin, c'est une à la fois question, réaction. Donc je suis très, très impressionné, très ému par cette restitution de Descartes. Et je jubile enfin, quand vous... parler du déterminisme et de Spinoza et tout ça. Enfin, donc, je suis preneur. En fait, alors, j'aimerais me reporter, je dirais, au début du XXe siècle. Moi, je lis beaucoup d'auteurs qui sont psychologues, biologistes. Je suis en train de lire, d'ailleurs, un livre que j'avais déjà lu en allemand qui vient de sortir, Helmut Plessner,
Les degrés de l'organique.
Oui, c'est ça.
Et l'homme.
Voilà, livre extraordinaire, enfin, événement de l'édition française. Bon, je le relis. Et quand même, l'adversaire est Descartes. Bon, tout de même, tous ces psychologues enfin, biologistes qui veulent dépasser l'objectivisme de la science, constatent que ils sont confrontés et Plessner à certains moments dit voilà, nous sommes dans une conjoncture telle que la science objectiviste a déployé toutes ses potentialités qui dériveraient tout de même du concept de choses étendues, etc., ou d'un dualisme, et s'il y avait un mot d'ordre qui pourrait rassembler les médecins, les psychologues, les biologistes, ce serait l'os von Descartes. Donc, prenons nos distances, abandonnons Descartes. Disons la question, ce serait, au fond, quand même, la responsabilité de Descartes, entre guillemets, de cette direction qu'a prise la science.
D'abord, pour quitter Descartes, il faudrait être entré dedans. Moi, je pense que l'interprétation dualiste est une interprétation qui a été créée et suscitée par les adversaires de Descartes, d'abord les Anglais, la perfide Albion, et puis qui après a été reprise par tous les gens qui s'opposaient à Descartes, ou bien était utilisée contre Descartes par l'interprétation matérialiste de Descartes. Donc en fait, c'est... Donc mon dernier livre sur Descartes, qui est sur la pensée passive de Descartes, tend à montrer que Descartes n'a pas été dualiste. Alors on lui reproche des interprétations inexactes de lui, qui sont comme ça. Alors là, vous dites Eisner, mais il y avait Danto, il y avait tout le monde dit ça. Il ne faut pas être dualiste. Je suis bien d'accord, il ne faut pas être dualiste. Descartes ne l'était pas. Par contre, alors ce qui est étrange, c'est que les gars disent plus de Descartes, retour à Spinoza. Alors Spinoza, lui, il était dualiste comme un cochon, comme une brute. Alors, je ne comprends pas ces incohérences, mais bon, les scientifiques sont des mauvais philosophes, ce n'est pas leur métier, mais dans ce cas-là, qui ne parlent pas de philosophie, ça, ce serait mieux. Hein, ils parlent de psychologie, de psychanalyse, de tout ce qu'ils veulent, ils sont très forts, j'admire, je m'instruis. Mais moi, je ne prétends pas porter des jugements sur la physiologie, sur la psychologie, sur les... Bon, alors, l'erreur de Descartes et Spinoza avait raison, ce qu'on dit maintenant, c'est absurde. Sur la base d'une ignorance égale de l'un et de l'autre, on se tait. Et celui qui était dualiste, qui a revendiqué cela absolument, c'est la célèbre doctrine du parallélisme, c'est évidemment Spinoza. Donc c'est idiot de vouloir sortir du dualisme en invoquant Spinoza. Et puis reprocher à Descartes, tout ceci est absurde. Mais je veux dire, vraiment, là il faut leur dire que c'est absurde. Mais d'ailleurs, ils vous diront la réponse que font les philosophes analytiques quand on leur dit que Descartes n'était pas dualiste. Et ils vous disent, vous avez sûrement raison, parce que vous connaissez Descartes beaucoup mieux que nous. Mais voyez-vous, nous, on ne s'intéresse pas à Descartes, on s'intéresse au cartésianisme. Et voilà, tout le monde sait que le cartésianisme, c'est une marque. Le cartésianisme est dualiste. Donc, vous pouvez démontrer n'importe quoi sur Descartes, ça n'a aucune importance, on ne changera pas.
La question, c'est comment est-ce qu'on est passé de Descartes au cartésianisme,
parce que Descartes est devenu une marque. Comme vous dites très bien, c'est une marque parce que il était un adversaire commode. Bon, c'est arrivé à d'autres philosophes, hein. c'est arrivé à Marx, c'est arrivé lourdement à Nietzsche. Je veux dire que des philosophes soient réduits au rôle de punching ball, parce que ça c'est utile à la discussion démocratique, c'est assez banal. Quand les gens disent que Descartes était dualiste, c'était l'opinion de la maîtrise et de Locke.
Ça dépasse le problème du dualisme.
Oui, mais bien entendu.
De toute façon, je vous dis.
Bien sûr,
mais. Quand même, vous dites, les scientifiques, etc. Plessner était un philosophe.
Mais oui, mais tous les.
Et ça pose aussi le problème.
Oui, mais.
Est-ce qu'il n'y a pas une pensée de type philosophie?
Non, mais.
Chez des.
Oui, mais attendez. L'interprétation allemande de Descartes, l'interprétation classique, c'est l'interprétation de l'école de Marbourg. De Cassirer, Cohen, Natorp, qui reprend l'interprétation hegélienne, kantienne, et qui était déjà celle l'interprétation de Descartes qu'on retrouve critiquée chez, chez Nietzsche et même dans Ein und Zeit. Donc, je suppose que sa formation, c'était ce Descartes-là, qui est toujours enseigné en Allemagne, et le dernier grand cartésien allemand, qui était notre collègue Wolfgang Röde, qui est mort récemment, très grand historien et excellent ami, était encore à fond sur l'interprétation, pour le coup, totalement dualiste, de Descartes conformément à la tradition allemande, école de Francfort. Donc ça ne me surprend pas du tout que quelqu'un formé à la philosophie allemande tienne à cette interprétation-là, qui est l'interprétation traditionnelle depuis Kant de Descartes en Allemagne. Et je ne connais pas de livre récent qui fasse exception à ça, sur ce point, que Descartes n'était pas dualiste. Donc, c'est normal. Alors, moi je suis persuadé que les discours des scientifiques, quand ils sont sérieux, a une portée philosophique. Ce que je mets en garde de ne pas utiliser des étiquettes faciles. Et c'est bon, c'est pas dramatique qu'ils disent que c'est du cartésianisme. Enfin, si on admet que le cartésianisme n'a pas plus de rapport avec Descartes que... le nazisme avec pas moins d'ailleurs que le nazisme avec Nietzsche ou le marxisme avec Marx, toute philosophie, surtout si elle a du succès, donne des sous-produits idéologiques. C'est inévitable. C'est inévitable.
Thomas.
Alors, comment définir la pensée cartésienne? Comment le commun de l'âme et le corps, parce que c'est pas, il conçoit pas ça pour là comme un rapport mémorphique. Comment est-ce qu'on peut définir ça si c'est pas un dualisme?
Il y a le fait que chez Descartes il y a trois notions primitives: la pensée, l'étendue, ce qui s'ensuit, et l'union. Et l'union veut dire que originairement le cogito, la res cogitans, inclut une part de matérialité qu'il appelle mon corps et qui permet de penser sur la modalité passive du sentir. Et ceci est une notion primitive dont Descartes dit qu'elle ne peut pas être pensée par rapport à aucune autre et qu'elle n'est pas le résultat de la conjonction des deux autres notions primitives. C'est-à-dire qu'il y a deux points de vue possibles. Il y a le point de vue dualiste qui est requis quand on considère les choses matérielles pensées et qu'on considère que le corps humain est une chose matérielle. Dans ce cas-là, on peut être dualiste. Mais quand on veut penser l'ego lui-même, l'ego est intrinsèquement étendu et pensant à la fois, au point que Descartes dit que dans le cas de l'ego, il faut dire que l'âme est étendue et que mon corps, ma chair, comme diraient les phénomènes contemporains, est dit, n'est pas divisible. C'est-à-dire il inverse les caractères. Le caractère propre de l'étendue, c'est qu'elle est toujours divisible. Ma chair, mon corps, comme il dit, corpus meum, n'est pas divisible. Et le propre de la pensée, c'est qu'elle n'est pas étendue. Il faut dire que mon âme est étendue quand elle sent. Donc à ce moment-là, c'est un troisième commencement, un troisième ego, qui est un autre commencement, et on commence par l'ulémorphisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant que Descartes reprenne l'expression aristotélicienne disant que l'âme est la forme du corps. Descartes le dit, ça. Il dit que l'âme informe le corps. C'est au contraire d'Aristote, pour Aristote, c'est toute forme informe une matière. Dans le cas de Descartes, il n'y a qu'un cas, qui est moi-même. Mais dans le cas de l'union, du « je pense », qui est aussi un « je sens », il est aristotélicien, il est pour l'ulémorphisme.
Mais peut-être que la question est moins là que, comme l'a vu par exemple Hans Jonas ou Helmut Plessner, c'est moins en ce qui concerne l'homme, parce que là justement il y a une forme qui informe une matière qu'en ce qui concerne les autres vivants. C'est-à-dire ce qu'on a appelé par la suite la théorie des animaux-machines, mais le fait qu'il n'y a pas de continuité Le dualisme serait le fait qu'il y a une sorte d'exception humaine.
La fin de l'exception humaine.
Voilà, une exception humaine absolue, sans incomparable, etc. Et puis en face, les autres animaux sont vus justement sans forme. Ce ne serait que des manières de l'étendue. Et donc il n'y a pas de continuum, comme on le verrait chez Aristote, par exemple, où la sensation chez les animaux est déjà une ébauche du logos, une esquisse en tout cas, et que tout tend vers ça. C'est là qu'est peut-être le dualisme, pas tellement entre l'âme et le corps, entre l'homme et ce qu'on appelait autrefois à l'époque d'Aristote les autres animaux, mais là on invente l'homme et l'animal. Est-ce que c'est pas là qu'il y aura un dualisme?
Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Alors, des gens qui pensent que les animaux n'ont pas d'âme, c'est mal branche. Leibniz, sûrement pas. Spinoza, oui. Kant, très vraisemblablement. Alors, chez Descartes, il y a une théorie du sentir animal. Descartes pense que les animaux sentent. Mais les animaux ne sentent pas qu'ils sentent. C'est sa thèse. C'est-à-dire, l'animal ne cogite pas qu'il cogite. Parce qu'il a uniquement la pensée passive, il n'y a pas la pensée active. Donc il y a deux lettres qui sont très classiques, où Descartes dit que l'animal cogite, mais il ne cogite pas qu'il cogite. Ce que je traduis dans mon langage en disant, il a la pensée passive, mais il n'a que ça. Et donc, il n'a pas véritablement la plénitude de la pensée. Alors, donc Descartes ne penserait pas que les animaux ne sont que des machines. La position d'ailleurs animal-machine n'apparaît pas chez lui. Hein. L'animal-machine, ça vient un peu de La Fontaine qui avait critiqué Descartes dans un célèbre poème sur les animaux. Et puis c'est au XVIIIe siècle qu'on parlera d'animal-machine. Descartes, lui, n'emploie pas l'expression. Je crois qu'il dirait que quand on prend les corps vivants de l'extérieur, c'est-à-dire dans le cas qui n'est pas le mien, qui n'est pas meum corpum, on ne peut en connaître que ce qu'on pourrait connaître dans l'étendue, c'est-à-dire ce que l'on connaît quand on fait des machines. Donc, il ne dit pas, c'est comme ça que je comprends, Descartes ne dit pas que les corps sont des machines, il dit, si nous considérons les corps vivants comme simplement étendus, comme des objets potentiels, nous ne pourrons en connaître que des modèles qui seront en fait les mêmes que ceux. C'est-à-dire, quand on peut rétablir une machine, on a compris ce qu'il y a à comprendre dans l'étendue. C'est-à-dire, le corps qui n'est pas le mien va être connu en le réduisant à des modèles mécaniques. Parce que c'est ce que nous connaissons dans l'étendue partout ailleurs. Je ne pense pas que Descartes irait plus loin que ça. Ce sont les matérialistes du 18e, c'est-à-dire Lemaître et d'Holbach, qui vont radicaliser la chose en disant les corps, tous les corps ne sont que des machines.
Y compris le corps humain.
Y compris pour le corps humain. C'est pas ce que Descartes dit. Et alors, c'est intéressant de voir aussi que les corps vus comme des machines. Descartes dit aussi que ce seraient des machines qui seraient autonomes, qui seraient à elles-mêmes leur propre moteur. Donc ça c'est déjà un principe non machiniste mais vitaliste. Donc faut y aller doucement. Et d'autre part, il y a une question importante, c'est que la notion de machine appliquée au corps se retrouve déjà chez Aristote aussi. Hein. Donc, alors évidemment, quand on simplifie, ça va plus vite, ça va mieux, on comprend mieux.
Silvio.
Vous avez rappelé que beaucoup ont appliqué des catégories de lecture historiciste et métaphysique à leur lecture de l'Augustin. Et vous avez dit ensuite que vous aviez appliqué vos propres découvertes en phénoménologie et vous avez vu que ça marchait. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu, préciser ce que signifie le « ça marchait » et nous expliquer lesquelles de vos idées phénoménologiques en particulier et pourquoi, à votre avis, ça marche mieux que les tentatives antérieures?
Je donne quelques exemples. pourquoi est-ce que la structure fondamentale, non seulement du livre des confessions, mais de la pensée de saint Augustin, est la confession? C'est une question qu'on peut poser, puisqu'il y a beaucoup de théologiens qui n'ont jamais fait une théorie de la confession et ont pratiqué la confession. Chez saint Augustin, tout le monde a noté que même dans les traités les plus dogmatiques, positifs, de haut en bas, etc., la structure, il y a toujours des choses remarquables, c'est que tous les concepts dépendent des citations de l'Écriture, que la prière est toujours, si je puis dire, les deux tranches de pain au milieu duquel se trouve le sandwich théorique, le jambon théorique, que qu'il y a une dimension dialogique et confessante de tous les traités. Ce qui n'est pas le cas non seulement de tous les théologiens, mais de la plupart des théologiens. La plupart des théologiens, même à l'époque de saint Augustin, commencent à faire des traités de des Trinitate, des Incarnatione, des Mundo, Periarco, etc. Alors, la réponse, c'est que la confession, c'est le mode augustinien de l'appel et de la réponse. La confession veut dire que la première parole qu'un homme peut prononcer est toujours une réponse. C'est ça. Alors, dans le cas de saint Augustin, c'est tout à fait clair. Quelle est la première parole qu'on peut adresser à Dieu? C'est la parole que Dieu nous a adressée. Pourquoi est-ce qu'on cite les Écritures? Parce que si les Écritures viennent de Dieu, alors on a le droit de les retourner vers Dieu, puisque ce sont des mots que Dieu a validés. Tout autre mot est interdit. Grand principe théologique qui est chez Denis d'ailleurs. Denis dit, on ne peut utiliser que des mots bibliques à propos de Dieu. Le reste n'a aucune pertinence. Donc, toute parole sur Dieu est une réponse. D'où l'intérêt de la citation, d'où l'intérêt de trouver ces concepts dans les textes bibliques, en les interprétant, etc., mais dans les textes bibliques. Bon, il y a aussi le fait que l'appel et la réponse veut dire que nous sommes toujours précédés par. La confession suppose que Dieu est toujours déjà là. Et c'est pourquoi la confession commence par Magnus est Deus et Valde laudabilis. Tu es grand Seigneur et fort digne de louange. Ce qui est la définition du rapport de l'antériorité absolue de Dieu, de son incommensurabilité par rapport à nous, qui a comme conséquence que notre réponse n'est jamais une prédication, parce qu'on ne prédique que des choses qui sont à notre niveau ou en dessous. Donc, d'une chose du monde, nous sommes habilités à prédiquer quelque chose. C'est déjà plus difficile quand il s'agit de prédiquer quelque chose, de quelque chose qui n'est pas un quelque chose, mais qui est quelqu'un. C'est-à-dire, quand je prédique quelque chose de quelqu'un, en fait, je le traite comme un quelque chose. Donc, il y a toujours, à ce moment-là, un problème. Alors, quant à prédiquer quelque chose de Dieu, restons polis. Or, la plupart des théologiens, surtout les athées, ne cessent de prédiquer quelque chose de Dieu. Mais de quel droit? On croit rêver. Quand quelqu'un dit « Dieu est mort », attention, mon vieux. Tu sais pas ce que veut dire Dieu, tu sais pas ce que veut dire mort, tu sais pas ce que veut dire est. Et de toute façon, t'es pas de taille à prédiquer quelque chose sur Dieu. Il faut quand même être sérieux. Non, on peut dire, je vais mettre 6-0 à Federer, bien entendu, on peut toujours. On peut toujours. Enfin, ça n'a aucun sens. Là, c'est un peu pareil. Donc, il faut être... Donc, voilà, tout ceci, si vous voulez, la notion de confession, on peut l'éclairer par des concepts, des analyses phénoménologiques qu'on fait ailleurs, et alors, ça, qu'on transforme, évidemment, pour les adapter. Mais ça permet, une chose fondamentale, c'est de ne pas considérer les prières qui ouvrent ou qui ferment chaque livre des confessions, ou les citations bibliques, comme de la mauvaise graisse qu'une analyse sérieuse va exclure pour ne garder que les développements conceptuels. Ce que font tous les philosophes quand ils lisent
Augustin.
Heidegger le premier. Tout le monde travaille sur le livre 11 parce qu'il parle du temps. Là, il y a du concept. Alors pourquoi il y a des prières avant, après, on va quand même. Nous sommes des gens sérieux, on ne va pas s'intéresser à ça. Ben si, il faut s'intéresser à ça. Autre exemple, toute la doctrine de l'amour de Saint-Augustin, ça s'explique évidemment si on considère que l'amour n'est pas une passion. Si on considère que l'amour est le lieu de l'ipséité elle-même. Que l'amour... Saint-Augustin dit cette phrase... Nemo est qui non amat. Il n'y a personne qui n'aime pas. C'est-à-dire que aimer n'est pas facultatif. Bon. Dans une interprétation philosophique, je vais dire théologique banale, vous avez l'âme qui a plusieurs activités, plusieurs propriétés, entre autres elle aime. Donc il faut qu'elle aime Dieu. Parce que... Non, pour Saint-Augustin, l'âme n'aime pas, c'est la même chose. Donc la question de l'amour est le point de départ. Bon, ça, on peut le comprendre très bien si dans le phénomène érotique est basé sur cette idée que de toute façon, on va aimer. Le seul problème, c'est de savoir quoi, qui, comment. Bon, c'est exactement la problématique de Saint-Augustin. Donc, amor meus, pondus meum. L'amour n'est pas optionnel. Alors, si vous avez une interprétation métaphysique, la plupart du temps, l'amour est une... Dans le meilleur des cas, recommandé, mais à distance, la plupart du temps, une passion dont il faut se méfier. Dans la pensée moderne, c'est le cas. Donc, c'est très difficile d'avoir une lecture correcte de Saint-Augustin si vous êtes dans cette optique-là. Alors, évidemment, la phénoménologie contemporaine permet quand même de se libérer d'un certain nombre de... on va prendre aussi la question du temps, par exemple, chez Saint-Augustin. Cette idée, quand même géniale, que... Pour nous, le temps, pendant très longtemps, le temps, c'est un temps infini. Un temps qui va durer tout le temps, si je puis dire. On va faire comme s'il durait tout le temps. Et ceci depuis le XVIe siècle. Et d'ailleurs, la physique classique est basée sur l'idée que le temps ne va pas varier. Qu'on aura toujours le temps de mesurer le temps. Et cette vision du temps... a été dénoncé comme une spatialisation du temps, ce qui n'est pas entièrement faux. Et au contraire, Saint-Augustin, dans son analyse du temps, part de l'idée que le temps est créé, c'est-à-dire que le temps est fini. Il y a du temps dans la création et nulle part ailleurs. Et donc le temps est le lieu de la finitude. Alors quand vous dites le temps est le lieu de la finitude, d'un seul coup vous retrouvez des thèses de la philosophie moderne. Le temps, c'est ce qui fait que l'être est fini, Heidegger. Le temps est fini, et le lieu de la finitude. Ça change complètement le point de vue. Alors, il y a un point qu'on considère ne posant aucun problème, mais moi, que je considère posant un problème. Bon, il y a des théologiens qui ont dit que le temps peut être, le monde peut être infini, et le temps peut être infini, que ça n'empêche pas son caractère créé. Saint-Augustin, par exemple. Bon, Saint-Thomas. Bon, il y en a d'autres. Moi, je ne suis pas... Bon, peut-être, mais je pense qu'il y a une pensée plus radicale de dire que le temps, c'est le lieu de la finitude, que l'espace est fini, tout ceci est créé. Il n'y a de temps et d'espace que pour nous. Et donc, un monde qui serait fini avec un temps infini, un espace infini, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est la position de Saint-Augustin. Hein. Dieu n'est pas quelque part... Parce que tout lieu est en Dieu et non pas Dieu dans un lieu. Dieu n'est pas inactif dans le temps avant la création ou après la fin des temps, parce qu'il n'y a de temps que pour nous. Donc, là, il y a une... Si vous prenez le point de vue de la finitude radicale dans laquelle, finalement, la philosophie contemporaine se trouve, on a un accès à Saint-Augustin. Donc il y a de nombreux autres cas qui fait que ça marche beaucoup mieux.
Voilà, le temps est fini.